Bien-aimés, je vous souhaite une bonne fête de Pâques, bien que célébrée dans le confinement. Je voudrais vous dire que le message d'aujourd'hui concerne effectivement cette question de confinement qui nous préoccupe tous. Le thème de ce jour, c'est Pâques juive et Pâques chrétienne dans le confinement. Quel message pour nous? Et nous allons lire Exode chapitre 12, le verset 1 à 15, et la première épître aux Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8. Je lis d'abord Exode chapitre 12, verset 1 à 15. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous les considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on le mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, j'ai parcouru l'Égypte, je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez les souvenirs de ces jours en les célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du premier au 7e jour sera exclue d'Israël. 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 6 à 8. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Parole du Seigneur. Nous allons prier. Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes la grâce de célébrer cette journée pascale dans des conditions que nous n'aurions pas prévues depuis le début de cette année, dans des conditions telles que nous sommes tous confinés, incapables de nous rassembler dans nos églises, dans nos temples, des lieux de culte habituels. Mais merci Seigneur parce que dans ces conditions, tu nous parles toujours aussi. Nous prions que tu bénisses ta parole, que tu nourrisses ton peuple et que tu nous accordes de saisir le message que tu nous envoies dans cet état de confinement. Nous prions pour nos frères et sœurs qui, dans les mêmes conditions dans le monde entier, célèbrent la Pâque aujourd'hui. Nous avons besoin de toi, besoin de t'entendre nous parler. Par ton esprit, prépare-nous et accorde-nous la grâce d'être capables non seulement d'écouter, mais de mettre en pratique ta parole. Nous te prions au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. D'où vient la Pâque? Et quel sens la Pâque avait dans l'Ancienne Alliance? Ce sera le premier point de notre message, parce que nous avons commencé par lire Exode chapitre 12, où se célèbre pour la toute première fois dans l'histoire d'Israël la Pâque juive. Le mot Pâque vient d'un terme hébreu, passa, qui signifie sauter, ou alors passer par-dessus, ou tout simplement épargner. La fête de Pâques, La première a eu lieu pour les enfants d'Israël dans un temps de confinement. Dieu, avant d'opérer la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte, a confiné lui-même les enfants d'Israël, chacun chez lui. Il leur a ordonné de préparer pendant 4 jours, c'est-à-dire du 10e au 14e jour, la Pâque juive qui serait célébrée à la veille de leur sortie de l'Égypte. Ça, nous pouvons lire au verset 3 et au verset 6. Le Seigneur commence par dire à Moïse, ce mois ici sera pour vous le premier mois des mois, le premier de mois. C'est-à-dire que la Pâque juive n'ouvre pas seulement une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité, surtout dans l'histoire d'Israël, mais ouvre aussi un nouveau calendrier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Pâque a été célébrée, les enfants d'Israël commenceraient à avoir le premier mois, les jours de la Pâque. De même que pour Israël, la première célébration de Pâques restera une commémoration selon les passages que nous venons de lire de génération en génération parce qu'il est dit qu'elle sera célébrée perpétuellement. La Pâque que nous célébrons aujourd'hui dans le confinement en avril 2020 restera aussi inscrite dans les annales de notre histoire. L'histoire de chacun de nous, l'histoire de nos pays, l'histoire de tous les continents, tous les continents réunis. Parce que nous la célébrons dans des conditions particulières. Pourquoi? Nous le savons tous, le COVID-19 sème la terreur et la mort. Et parce qu'il en est ainsi, pour nous épargner d'être infectés, il nous a été demandé de nous confiner. Il y en a qui sont confinés partiellement, il y en a qui sont confinés totalement. Nous avons passé donc une semaine sainte sans nous rassembler dans nos temples habituels. Le jeudi saint, où nous avons l'habitude de célébrer le culte de 16h à 17h30, ça n'a pas été possible à cause de cet état de confinement, du jamais vu, du jamais vécu dans notre histoire. Mais quel message cela a pour nous? Je voudrais vous dire d'entrée de jeu que Pâques, avant d'être célébré, le Seigneur donna la première instruction au verset 4, où il dit que si une maison est trop peu nombreuse, ou une petite famille, celle-là ne célébrera pas la Pâque seule, celle-là devra s'associer à la famille du voisin plus proche pour avoir un agneau avec cette famille-là. Comme pour dire déjà, il faut que je le précise, comme pour dire déjà que deux familles se confinaient à leur manière, mais cela était un ordre qui venait de l'Éternel. Il ne faut donc pas s'enfermer, mais il faut plutôt s'ouvrir aux voisins. Il n'est pas question, parce que nous sommes dans une situation de confinement, que nous puissions oublier qu'il y a des frères et sœurs qui meurent de faim, des voisins qui n'ont peut-être rien à manger. Se confiner nous appelle à prendre en compte l'amour du prochain. Parce qu'il y en a qui risquent de croire que parce qu'on a dit de se confiner, alors laissons mourir ceux qui n'ont rien. Non, la première instruction que le Seigneur donne, c'était de penser aux voisins. Penser aux voisins signifie se souvenir de la détresse de ceux qui autour de nous, membres de notre église, peut-être voisins à nos côtés, n'ont rien à manger. Nous engager donc dans un élan de solidarité, dans une compassion de proximité, en volant au secours à la personne qui est en situation de détresse. Les enfants d'Israël n'ont pas été confinés par Pharaon, comme ça a été le cas pour les chefs d'État qui ont prononcé le confinement. Pour nous aussi, c'est Dieu qui avait confiné les enfants d'Israël. Mais pour nous, c'est le chef d'État qui fait un édit et qui dit « Désormais, voici ce qui va se passer. » Mais pourquoi Dieu confine Israël? Dieu confine Israël parce qu'il prépare sa libération. La sortie d'Israël va être une véritable sortie dont Dieu est le principal acteur. L'exode qui va avoir lieu va être un événement qui rappellera sans cesse à Israël que sa vie trouve son origine en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans l'acte de libération que Dieu lui-même a accompli, en frappant le premier-né dans chaque famille, en commençant par la famille de Pharaon, jusque dans la famille de l'esclave, même la personne qui était en prison a été frappée. En frappant aussi le premier-né de tous les animaux qui se retrouvaient en Égypte. On se rappellera qu'Israël, avant sa sortie, selon le livre de l'Exode, Israël, Dieu d'Israël a effectivement frappé l'Égypte par 10 fléaux. Je n'ai pas le temps de les rappeler ici. Mais il y a 4 principaux fléaux qu'on pourrait lire au chapitre 7, verset 19, au chapitre 8, verset 2, au chapitre 9, verset 3, au chapitre 10, verset 2, où effectivement Dieu, au fur et à mesure, est en train de démontrer au Dieu de l'Égypte qu'il est le Tout-Puissant. Mais le tout dernier acte, le tout dernier fléau qui va frapper Israël, qu'on retrouve ici en Exode, disons l'Égypte au chapitre 12, c'est le fléau décisif, déterminant, qui va conduire Pharaon à libérer les enfants d'Israël le lendemain même, sans tarder, parce que tous les premiers-nés seront frappés de mort et tous vont mourir. C'est cela que Dieu a fait pour libérer son peuple. Et donc le confinement en Égypte a été l'œuvre de Dieu qu'il a réalisée dans le souci de démontrer au Dieu de Pharaon, au Dieu de tous les Égyptiens, qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Alors désormais, cet acte de la libération des enfants d'Israël va rester inscrit dans la mémoire d'Israël de génération en génération. Parce que Dieu a démontré à quel niveau il est Dieu pour Israël. Il est délivre pour s'acquérir Israël comme un peuple propre à lui. Et Israël va désormais marcher comme Dieu l'entend. Et lorsqu'Israël ne fait pas ce que Dieu veut, ou selon les règlements ou les réglementations que Dieu donne par rapport à la manière dont Israël doit se conduire, Israël sera encore davantage frappé. Ça, c'est la première chose que nous devions retenir. Maintenant, la deuxième dans ce message, COVID-19. C'est à la fois une catastrophe, mais aussi un signal fort, un appel à l'ordre. Il est vrai que ce virus fait des centaines et des milliers de victimes. Ce matin, j'ai essayé de checker à travers l'Internet. Je me suis rendu compte qu'il y a 1 700 870 personnes qui ont été infectées depuis que ça a commencé. Et de ces 1 700 870, il y a 1 221 342 qui restent actifs, c'est-à-dire restent encore malades. Mais de ces chiffres aussi, il y a 102 789 décès. Et à l'heure actuelle, il y a 376 739 guérisons. Alors, c'est un virus assez virulent, au point que les chefs des nations, les scientifiques, les savants se sont révélés impuissants de contenir la virulence de ce virus. C'est donc une catastrophe que l'humanité est en train de connaître, particulièrement l'Occident, où il n'y a pas souvent de décès inutiles comme ça arrive ici chez nous. Les grandes puissances, les multinationales qui ont appauvri le monde et les bourses sont en débandade à cause d'un petit virus qui est en train de faire des victimes. Ce qui reste aujourd'hui, et cela le signale, ce qui reste aujourd'hui, c'est de reconnaître que seul Dieu reste la seule référence, le seul arbitre, le seul à qui nous pouvons nous confier lorsque nous faisons face à cette situation. Jésus, dont nous célébrons la résurrection aujourd'hui dans le confinement, rappelons-nous, a été tué à cause de son enseignement qui touchait les problèmes réels des populations en détresse. Les foules le suivaient. Parce que Jésus ne mettait pas sa langue dans sa poche. Il dénonçait l'expropriation des pauvres au profit des riches. Il dénonçait l'enrichissement scandaleux des riches pendant que les pauvres s'appauvrissaient davantage. Nous vivons aussi cela dans notre pays aujourd'hui et dans plusieurs pays africains où il n'y a pas de bonne gouvernance, où des gens s'enrichissent au détriment des autres, où il y en a même qui risquent d'être même plus riches que leur propre pays. Jésus s'est aussi attaqué aux chefs religieux qui avaient transformé le temple en un qui était originellement une maison de prière, à une maison de trafic. Il a même dit à une caverne de bandits. Comme ça arrive souvent aujourd'hui, où les églises parfois deviennent des lieux de trafic d'influence, de clientélisme, où le clientélisme s'installe, et où on constate dans certains regroupements religieux où l'immoralité est devenue monnaie courante. Aujourd'hui, des satanistes ou des occultistes s'affichent, n'ont plus peur de s'afficher, dans les milieux religieux, dans les mondes politiques et même dans certains métiers. Il y a des métiers dans lesquels aujourd'hui certaines personnes peuvent arriver à une certaine promotion que s'ils font partie à certaines loges. Alors nous rendons compte que le monde est à la dérive. Autant en Occident qu'en Afrique, le monde est à la dérive. Voilà pourquoi nous avons pensé que le troisième point de notre message devrait être « Ne poussons pas très loin les frontières de l'interdit ». Et cela nous amène à ce texte d'un Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 8 que nous avons lu, où déjà au chapitre, au verset 6, il dit, vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Nous ne devrions pas être fiers. Parfois, la célébration des fêtes chrétiennes sont comme une célébration à la mode. Mais est-ce que nous connaissons ce que cela signifie, ces fêtes-là? La Noël, ce qu'elle signifie. La Pâque, ce qu'elle signifie pour notre vie de foi. Il dit au verset 6, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Et il invite au verset 7, purifiez-vous du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain. Mais il va plus loin en disant que Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Et c'est ça l'essentiel de ces points que nous venons d'annoncer. Par sa mort sur la croix, Jésus a payé le prix de notre salut. Et par sa résurrection d'entre les morts, que nous célébrons aujourd'hui comme Pâques, nous commémorons en même temps que nous sommes devenus un nouveau peuple, racheté de l'esclavage du péché, alors que les enfants d'Israël étaient rachetés de l'esclavage sous Pharaon. Mais nous, nous sommes rachetés de l'esclavage du péché. C'est ça la célébration de la Pâque, pour vivre non plus dans le péché, mais vivre en nouveauté de vie, en affirmant que Christ en nous, nous sommes vainqueurs et même victorieux sur le péché, sur le monde et sur le diable. Parce que c'est ça ce que signifie la résurrection du Christ. Pourtant, quand nous observons le monde aujourd'hui, nous constatons une triste histoire de monde où Dieu ne règne pas du tout. Il y en a qui confessent Jésus, que Jésus règne sur Jésus est leur Seigneur, mais la manière dont ils vivent leur propre vie témoigne effectivement que Jésus ne règne pas. J'ai l'habitude de dire aux gens que si Jésus ne règne pas sur Si Christ ne règne pas sur toutes choses dans notre vie, il ne règne pas du tout. On le voit aussi parmi les musiciens chrétiens, les apôtres et les bishops des églises indépendantes qui pratiquent sans vergogne l'immoralité sexuelle, qui pratiquent aussi l'occultisme. Une jeune fille ici à Goma était fiancée à un jeune homme. Et comme toujours, quand une fille est fiancée à un jeune homme et qu'il commence à vouloir se marier, le jeune homme a demandé à la fille de le rejoindre dans son église. La fille est partie. Mais quelques temps après, dans cette église, le pasteur même de ce qu'il a accueilli a commencé à faire la cour à cette fille-là. La fille a tellement été dérangée qu'elle a été obligée de dénoncer cela auprès de son fiancé. Le fiancé, tellement il adorait son pasteur, parce qu'il y a des pasteurs qui sont devenus comme des gourous, tellement il adorait son pasteur qu'il n'a pas cru. Il a rejeté en bloc les formations qu'il a reçues de la fille. La fille était complètement dépassée. Elle a décidé de rompre cette fiançaille et de quitter cette église parce qu'elle était sérieuse et ne voulait pas rester dans une église où même mariée, le pasteur risquerait de continuer à chercher à la courtiser. Nous comprenons donc en fait à quel niveau les gens ont poussé de loin les frontières de l'interdit. Les gens ne connaissent plus vraiment ce qui est interdit. Pourtant, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, au nom de la permissivité, les gens se permettent n'importe quoi et ils ne connaissent plus ce qui est interdit par rapport à certains statuts qui est le leur. D'autres prétendent servir le Seigneur, mais ils ont fait de Dieu leur propre ventre. Ils imaginent toujours des stratégies pour gagner davantage d'argent sur le dos des membres souvent très naïfs. On voit effectivement combien la naïveté des gens les amène même parfois à vendre leurs biens pour enrichir davantage leur pasteur, leur soi-disant pasteur qui effectivement ne sait pas où il est conduit. Leur souci, c'est plutôt l'enrichissement et l'enrichissement illicite. En Occident, les mariages pour tous a été voté comme loi et les églises se sont inclinées et il y a des églises chrétiennes, où on célèbre la Pâque, où on célèbre la Noël, où on célèbre la Sainte Cène, aujourd'hui en Occident, où les mariages des homosexuels sont célébrés. Et ceux qui sont honnêtes, ceux qui sont intègres dans leur propre foi, il y en a qui ont quitté ce genre d'église. Les gens ont tourné le dos à leur Créateur, ils ont adoré la science, ils ont adoré l'argent, ils ont adoré les loisirs. Alors, face à toutes ces abominations, le coronavirus devient une catastrophe, c'est vrai, dont nous devons regretter les effets, mais à la fois, Dieu utilise ce coronavirus, ce COVID-19, comme une occasion pour rappeler chacun à l'ordre. Voilà pourquoi il ne faut pas pousser trop loin les frontières. Chacun de nous doit reconnaître les frontières qu'il ne doit pas outrepasser. dans sa manière d'être, dans sa manière de se conduire, dans sa manière de vivre la foi, en privé comme en famille ou en communauté, il y a des frontières qu'il ne faut pas pousser au point de franchir la ligne rouge, c'est-à-dire ne plus se laisser interdire. Le temps, c'est le dernier point de notre message, le temps de la repentance a sonné. Donc, nous célébrons la Pâque dans le confinement pour que chacun de nous, comme je l'ai dit dans le premier message le 22 mars, pour que chacun de nous soit seul à seul avec Dieu, soit devant sa propre conscience. S'il est membre de l'Église, comment se conduit-il? Comment marche-t-il? Dieu appelle chacun et chacune d'entre nous à se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Dieu s'adresse à ceux qui pillent nos ressources et qui se sont enrichis de façon illicite et qui nous ont appauvris davantage de s'amender avant qu'il ne soit trop tard. Dieu s'adresse aussi à ceux qui sont dans les réseaux mafieux, qui massacrent les gens à Béni, à l'arme blanche, qui doivent aussi arrêter. Ceux qui font le trafic humain, ils doivent aussi arrêter. Ceux qui se contentent d'utiliser les viols comme arme de guerre, tous ces gens-là doivent arrêter. Il est temps d'arrêter. Chacun de nous donc, bien-aimé, à son niveau, doit réfléchir sur la manière dont il conduit sa propre vie, parce que notre vie tire l'origine en Dieu. Et c'est à lui que chacun de nous devra rendre compte un jour. Pâques nous rappelle que Dieu en Jésus-Christ a payé le plus grand coût, le plus grand prix pour nous acquérir, pour que nous lui appartenions en propre, un peu comme Israël a été libéré de l'esclavage en Égypte pour qu'il soit conscient qu'il appartient à Dieu et à Dieu seul. Ce coût-là a été payé par la mort du Fils de Dieu, de Jésus, dont nous avons célébré cette mort hier le vendredi, avant-hier le vendredi saint. Et nous avons vu, nous lisons dans les évangiles, nous constatons à quel niveau Jésus a subi l'horreur, la souffrance horrible. Il a été torturé psychologiquement, moralement et physiquement. Et toute cette humiliation que Jésus a subie jusqu'à mourir comme un malfaiteur sur la croix, cette mort vaut pour tes péchés. Cette mort vaut pour ton égarement. Cette mort vaut pour les dérapages de ta propre vie. Cette mort vaut pour toutes les abominations que les uns et les autres nous avons commises. Il est temps donc de demander à Dieu de créer en nous des nouveaux cœurs, des nouvelles dispositions pour le servir, lui en priorité. La question devrait être de savoir quel est l'état de ta famille dans laquelle tu vis. Est-ce que tu as pitié de ton père, de ta mère, peut-être perdu? Est-ce que tu as pitié de tes frères et sœurs qui n'ont pas Christ? Est-ce que tu as pitié de toi-même parce que tu n'as pas Christ dans ta vie? Parce que la manière dont tu vis témoigne effectivement que Christ ne règne pas sur ta vie. Est-ce que tu as pitié des amis que tu fréquentes, des collègues, des membres de ta famille, des personnes que Dieu met sur ton chemin? Pour ces personnes-là, le Christ est mort sur la croix. Et par sa mort sur la croix, le salut est disponible. Le Christ mort n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité d'entre les morts. Bien-aimé, le relèvement de ta famille, le relèvement de ton pays dépend du sérieux de ton engagement vis-à-vis de Dieu. Et le temps où nous sommes confinés, même partiellement, nous devrions passer beaucoup de temps à réfléchir sur la manière dont nous marchons. Ça ne servira à rien que le confinement, que nous passions à l'étape du déconfinement ou que le confinement soit levé si nous n'avons pas tiré profit de ce temps que le Seigneur nous a donné. Que ça dure un mois, que ça dure deux mois, c'est un temps important que le Seigneur te donne pour prendre une nouvelle orientation et donner une nouvelle orientation à ta vie. Parce que le relèvement de ta famille et même de notre propre pays dépend de l'engagement de chacun. Si notre engagement pour Dieu est sérieux et responsable, il va influer aussi sur notre engagement social et notre engagement politique. Même notre engagement dans l'Église. Ça doit changer tout cela. Pour que notre pays soit sauvé des démons de l'insatisfaction qu'on appelle insatiabilité. Les gens sont insatiables. Ils sont toujours insatisfaits. On pourrait même croire que c'est une maladie. Ceux qui ont l'argent veulent en avoir davantage et parfois passent par des détournements, par des corruptions. Si vous entendez le fond énorme que les gens détournent, vous posez la question, mais jusqu'à quand les gens seront-ils insatisfaits? La Pâque que nous célébrons dans le confinement nous rappelle, je le répète, à nous mettre en garde. Nous mettre en garde. Comment peux-tu dormir tranquillement dans une maison construite avec de l'argent qui ne vient pas de ton salaire ou du labeur dans les affaires? Comment peux-tu te sentir à l'aise et très chaud dans les habits, dont tu connais toi-même la source impure. Comment peux-tu rouler dans une voiture dont les produits et de l'argent détourné? Comment peux-tu avoir un téléphone? Je m'adresse aux filles et aux jeunes garçons aujourd'hui qui ont des grands téléphones qui coûtent trop cher, mais les parents ne connaissent pas d'où vient cet argent. Il est temps, bien-aimés, que nous puissions nous repentir. Dieu pleure, notre créateur pleure. Il se pose la question, jusqu'à quand continuerons-nous à ne pas comprendre le prix qui a été payé pour notre propre salut? Voilà pourquoi nous sommes invités à nous purifier du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, nous tous croyants. Nous devons faire attention à l'émergence du mal que nous commettions quand nous n'étions pas encore chrétiens, mais qui fait encore irruption dans notre propre vie et nous le tolérons. Chacun de nous doit faire amende honorable, se poser la question, est-ce qu'il est vraiment une pâte nouvelle? Est-ce qu'il vit ce que le Seigneur exige qu'il vive? Débarrassons-nous de tout péché qui nous enveloppe assez facilement, parce que pour nos péchés, Christ a beaucoup payé. Débarrassons-nous de toute forme de corruption, de toute forme de mal, de tout ce qui ne témoigne pas que Christ règne sur notre propre vie. Et célébrons donc la fête de Pâques, même dans le confinement, non avec le levain du mal, le levain de la méchanceté, de l'hypocrisie, du vol, des détournements, de la corruption à tout de tous bords, du mensonge, de l'immoralité, de tout ce qui caractérise la vie de beaucoup de gens, tout en étant dans l'Église. Mais avec le pain levain, le pain sans levain plutôt, de pureté et la vérité. Bref, d'une vie pure, une vie sanctifiée, une vie qui témoigne que nous avons pris conscience qu'il en a coûté à Dieu de livrer son propre Fils à la mort, par amour pour nous. Et parce qu'il nous aime, il nous invite à faire attention à la manière dont nous conduisons. Plaise au Seigneur que ce confinement du COVID-19 soit un moment important pour toi et pour moi, pour donner une nouvelle orientation à notre vie. Et que cette Pâque que nous célébrons dans le confinement soit une occasion tant recherchée, que Dieu recherche pour que tu deviennes une autre personne, un autre type d'homme, un autre type de femme, un autre type de garçon, un autre type de fille, et que nous puissions construire un autre type de famille qui honore et qui glorifie le Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te prier, te recommander ce message et chaque personne qui l'a écouté, qui qu'il soit, quel que soit son statut, quelle que soit sa situation, parce que par l'œuvre de la croix, tu as ouvert largement tes bras pour accueillir tout le monde. Accueille-nous, Seigneur. Accueille les Africains, accueille les Asiatiques, accueille les Européens, accueille les Américains, accueille tous ceux qui se tournent vers toi, prenant conscience, ô Dieu, qu'ils ont ruiné leur propre vie, ils se sont détournés de toi, et le temps est arrivé où ils se repentent pour revenir à toi. Laisse-les, Seigneur, expérimenter à quel point il est bon de se tourner vers l'Éternel et de marcher résolument avec lui, dans la pureté et dans la vérité. Sanctifie tes enfants et bénis ton Église qui célèbre dans le confinement et accorde-nous la grâce de mettre à profit le temps que tu nous donnes pour pouvoir réfléchir, méditer à fond sur notre manière de marcher et te laisser prendre la direction de notre propre vie, autant que tu l'attends de nous. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.